بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ الإسلام، nous avons par la grâce d'Allah complété un point essentiel concernant les catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyama. Et la première catégorie qu'on avait vue il y a quelques mois, c'était un imam adil. On va s'avancer un petit peu, au moins la voix reste. Imam adil, on rappelle qu'on avait parlé d'un dirigeant juste. Et on avait dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le sultan, lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde le pouvoir à une personne, c'est aux yeux des êtres humains une faveur. Quand on voit quelqu'un qui dirige, qui commande, on se dit que lui il a la chance, lui il a le pouvoir, les gens, subhanallah, les gens l'obéissent. Hein, donc aux yeux de l'être humain, c'est une faveur, c'est une certaine notoriété que la personne possède. Mais pour Allah Azza wa Jal, lorsqu'il accorde le pouvoir à une personne, c'est avant tout un ibtila, c'est avant tout une épreuve. Et Allah Ta'ala va l'éprouver dans ce bienfait qu'il lui a accordé. Est-ce qu'il va faire preuve d'équité, de justice, ou alors il va utiliser ce bienfait-là dans un intérêt personnel, il va faire preuve de zulm, d'injustice. Donc la première catégorie de personnes que le prophète alayhi salat wa salam a annoncé, donc qui sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour des comptes, c'est cette personne qui a eu le pouvoir de la part d'Allah Azza wa Jal et qui a été juste. La deuxième catégorie qu'on avait développée avec un peu plus de précision, parce que c'était quand même un point extrêmement important, c'est shabun nasha'a fi ibadatillah ou fi ta'atillah. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers pas mal de récits, on avait vu comment l'islam a connu son essor par le biais des shabab, par le biais des jeunes. Et très souvent, comme on avait dit, on a cette image en tête que le sahaba, c'est une personne qui est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, on connaît la définition, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la foi et qui est décédé avec la foi. Mais très souvent, quand on essaie d'imaginer Abu Bakr Siddiq, Omar, Uthman, Ali, on voit des personnes très âgées avec une grande barbe blanche, avec vraiment, on voit ce genre de personnes. Mais à travers les différents récits, on avait vu l'âge des sahaba lorsqu'ils se sont convertis à l'islam. On avait vu pas mal de récits concernant des sahaba qui dirigeaient des armées, des sahaba qui ont rassemblé le Coran, des sahaba qui étaient des puits de connaissances, que lorsqu'ils se rendaient dans une assemblée, tout le monde restait silencieux, des sahaba qui maîtrisaient la lecture du Coran, etc., etc. On a vu que la nusrat d'Allah est venue par le biais des jeunes sahaba. Et l'exemple le plus probant, c'est Hazrat Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra, la migration, histoire très connue, en prenant sa place dans sa maison, hein, pour tromper les Quraysh et le permettre d'aller à Madina. Et on a vu que grâce à ce sacrifice, Allah Azza wa Jal a permis à la ville de Madina de devenir illuminée, de devenir munawwara par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est entré dans cette ville, et c'est devenu la première ville des musulmans. Et c'est de cette ville-là qu'Allah a envoyé sa nusra et la hidaya dans la péninsule arabe et dans la plupart des pays autour. Donc à la base, il y avait un mujahada, un sacrifice qui a été accompli par un jeune homme, Ali ibn Abi Talib. On avait vu également exemple très marquant de Moussa bin Umar radiallahu anhu, parmi les faits historiques, hein, son jeune âge, il a embrassé l'islam, il a dû abandonner tous les ni'mah, tous les bienfaits, la richesse, la notoriété, tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordé à sa famille, il a tout abandonné parce qu'il a voulu attester la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ses parents lui ont donné le choix, soit tu suis cet homme, soit tu restes avec nous. Si tu restes avec nous, alhamdulillah. Si tu suis cet homme, dans ce cas, tu dois te séparer de la famille et de tous les biens dont tu jouis. Et Moussa ibn Umar a fait le bon choix. Il a tout délaissé pour Allah Azza wa Jal. Il a suivi le prophète alayhi salatu wa salam. Et de l'état d'extrême richesse, le jeune homme le mieux habillé, le mieux parfumé à Madina, il est devenu un des plus pauvres. À Makkah, pardon, il est devenu un des plus pauvres jusqu'à ce que lorsqu'il quitte ce dunya, il n'y a même pas de quoi couvrir son corps. Il n'a pas de kafan. Il n'a même pas un kafan pour couvrir correctement son corps. Et bi'idhnillah, grâce au sacrifice de Moussa bin Umair, que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé comme émissaire à Madina, comme représentant de l'islam, comme muallim, comme enseignant, toute la ville de Madina, toutes les qabaïles, toutes les tribus ont accepté l'islam les uns après les autres. Même les grands chefs comme Sa'd ibn Mu'adh, comme Usayb ibn Khudayr radiallahu anhuma, c'était les Sa'adat, c'était les chefs de tribus à Madina Munawwara, lorsqu'ils ont écouté les prêches de Moussa ibn Umair qui enseignait les gens le Coran, qui enseignait uniquement le Coran, mais avec un degré de iman, de foi, et ses paroles étaient empreintes de mujahada, parce qu'il a fait un sacrifice énorme. Donc les paroles qui sortaient de sa bouche sortaient en fait de son cœur, et ça allait de cœur en cœur, ça touchait les cœurs des gens qui écoutaient. Quand il y a un effort derrière un travail, il y a un effet spécial. Et donc ces deux chefs qui étaient, si je ne me trompe pas, Sa'd ibn Mu'adh ou Sa'd ibn Ubadah et Usayb ibn Khudayr, ils étaient partis écouter pour voir qu'est-ce que ce jeune homme-là prêche. Donc c'était des chefs de tribu, des gens respectés. Ils étaient allés en cheval écouter, et les quelques paroles qu'ils ont entendues de Moussa ibn Umair, ça a touché leur cœur et ils ont immédiatement accepté l'islam. La Nusra d'Allah est venue par le biais de ce jeune homme, et bien là, grâce à son effort, cette population s'est convertie à l'islam. Ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont aidé le din d'Allah, et toutes les vertus qu'il y a concernant les Ansar, c'est entre autres, bi'idhnillah, par le biais de ce que ce jeune homme a fait. Donc ça, c'est un point où on a voulu vraiment, vraiment insister, et on a vu jusqu'à la dernière fois, il y a deux semaines, encore l'exemple de jeunes personnes qui ont œuvré, qui ont consacré leur vie pour le din d'Allah, et on a vu parmi les tabi'in et parmi les grands savants de l'islam, pas mal de personnes, Imam Shafi'i, rahimahullah, on a vu Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, et d'autres savants encore. Et on a vu comment est-ce qu'ils ont consacré leur temps, leur jeunesse dans l'obéissance d'Allah. Et là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel parce que c'est dans un laps de temps de notre vie uniquement qu'on peut obtenir cette place sous l'ombre du trône d'Allah. C'est uniquement pendant la jeunesse. Quelqu'un qui est âgé de 50 ans, 60 ans, qui obtient la hidayah, il revient vers le droit chemin, il demande tawbah, il va faire tout ce qu'il a à faire. Allah va accepter son tawbah s'il est sincère, inshallah. Mais la jeunesse qu'il a passée dans d'autres voies que dans l'obéissance d'Allah, ce temps-là est perdu. Ça, c'est fini, ça. Même si à l'âge de 60 ans, il devient l'homme le plus pieux de la localité, mais les années qu'il a passées dans sa jeunesse dans la désobéissance d'Allah, ce sont là des années perdues. Ça ne se rattrape pas. C'est pour ça que ce point-là, c'est extrêmement important. Et on avait expliqué que c'est parce que dans ce laps de temps, la jeunesse, c'est dans ce moment-là que l'être humain a le plus envie, a le plus de shahawat, a le plus de pulsions. Et plus il y a un effort, plus il y a un mujahada à faire pour se contrôler pour Allah, plus il y a des récompenses. Quand on est âgé, on a moins de pulsions, moins d'envie de faire le haram, de faire le péché. Quand on est jeune, les envies sont concentrées. Et comme la personne doit contrôler son nafs, doit se maîtriser pour Allah, pour rester dans le halal, dans le licite, cet effort-là, il est grandement apprécié par Allah Azza wa Jal, d'où la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ces personnes-là qui ont passé leur jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rappelle encore, quand on parle de passer la jeunesse dans l'adoration d'Allah, ce n'est pas non plus que c'est un jeune qui depuis l'âge de 12 ans, 13 ans jusqu'à l'âge de 40 ans ne quitte pas la masjid, ne travaille pas, ne fait rien du tout, la wallah. C'est quelqu'un qui a une vie dans la masjid, une vie à l'extérieur, quelqu'un qui est parfaitement intégré à la société, quelqu'un qui se marie, qui a une famille, qui a ses enfants, mais qui fait en sorte de rester toujours dans l'obéissance d'Allah et de ne jamais succomber aux tentations. Dire, passer ces moments, les plus beaux moments de la vie de l'être humain, les passer dans l'obéissance d'Allah, ne jamais franchir la frontière du haram. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on commence une troisième catégorie de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité, qui sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Une personne dont le cœur est attaché à la masjid. Et donc, cette sifat-là concerne tout le monde. Là, on ne distingue pas les jeunes, les moins jeunes. À partir du moment où quelqu'un, il se sent bien dans la masjid, quelqu'un qui fréquente avec assiduité la masjid, et on va voir les différentes définitions, les différentes ta'wilat, les interprétations du muhaddithin concernant cette expression. Ça veut dire quoi, avoir le cœur attaché à la masjid? Celui qui réunit, qui a cette qualité dans sa vie, inshallah, il peut prétendre à cette place également le jour de Qiyam. Et là, comme on a dit, il n'y a pas de distinction d'âge. D'une manière générale, en parlant des mosquées, des masajid, juste quelques petits hadiths pour aujourd'hui, hein, en introduction, mibab al-targhib, pour nous rappeler quelle est l'importance de la masjid. Là, on est dans une mosquée, alhamdulillah. Hein, les personnes qui ont construit cette mosquée, hein, il y a, subhanallah, on est encore petit, il y a peut-être combien de temps? Il y a 28 ans. Hein, 28 ans à peu près, hein, je devais avoir 4 ans ou 5 ans, il y a à peu près 28 ans, pile poil, alhamdulillah, mais ces personnes-là, ce qu'ils ont fait comme amal, comme action, ça c'est quelque chose d'énorme, ça c'est exceptionnel. Et si aujourd'hui, alhamdulillah, les gens ils viennent à masjid, que ce soit les joueurs normaux, si on peut dire des joueurs normaux, le joueur de Jum'a ou le mois de Ramadan, mais ces personnes-là ont certainement une part de récompense pour chacune de ces personnes qui ont œuvré, que ce soit les personnes qui ont investi financièrement ou qui, subhanallah, étaient sur place pour aider physiquement, pour contribuer à l'édifice de cette mosquée, de toutes les mosquées dans tous les pays du monde en général. Car le prophète alayhi salatu wasalam dit Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Vous rappelez, vous connaissez le hadith qui dit que ce dunya n'a aucune valeur pour Allah. Et si ce dunya avait la valeur ne serait-ce l'aile d'une mouche ou d'un moustique, Allah. On connaît la suite du hadith, d'accord? Ce hadith prouve bien que ce dunya n'a aucune valeur pour Allah Azza wa Jal. Les biens de ce monde, tout ce qu'on peut imaginer comme ni'am, comme bienfait, ça n'a strictement aucune valeur pour Allah. Parce que si on compare les biens de ce monde avec les biens du Jannah, là on comprend que ça n'a pas de valeur. Quand le prophète alayhi salatu wa salam dit mawdi'i sawti, hein, dit que une brindille, on va dire ça comme un petit morceau de bâton, un petit morceau de bois, une brindille du paradis vaut plus que tous les trésors de ce dunya cumulé. Imagine tous les trésors, toutes les générations, toutes les époques, depuis le premier homme jusqu'au dernier homme. Hein, les mines d'or, les gisements de pétrole, là, les mines de diamants qu'ils ont découvert au Groenland, qu'ils ne veulent pas qu'on découvre non plus, etc. Imaginez tous ces trésors, tous les dollars, les euros qui valent plus grand chose, ça. Tout ça, vous réunissez et vous prenez une brindille. On ne parle pas d'un qasr, on ne parle pas d'un château, on ne parle pas d'un des animaux du paradis. Là, wallah, on parle d'une brindille du paradis. Cette brindille-là, elle a plus de valeur que tout ce dunya. Ça c'est pour qu'on comprenne le décalage qu'il y a entre les bienfaits, entre les biens du Jannah et les biens en guillemets du dunya. C'est pour ça que ce dunya n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait la salah, non, la métaphore c'est elle de moustique. Là en été il y a des kayas, on va tout le temps parler des kayas. Vous voyez une petite aile de kaya là, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez, vous soufflez dessus. Si quelqu'un va dire, ah la kaya, c'est en période de crise, peut-être peut vendre ça demain. Mais pourquoi? On considère ça presque impur, d'accord? Ça, c'est cette métaphore utilisée par le prophète sallam, elle vaut vraiment ce qu'elle vaut. Parce que vraiment, ça n'a aucune valeur pour Allah. Et nous, Allah musta'an, on a inversé les valeurs. Ce qui a de la valeur, on abandonne. Et nous, on est en train de travailler, de se fatiguer, de consacrer notre jeunesse, notre temps, nos efforts, notre concentration. On est parfois même prêt à sacrifier la famille. Chose sacrée, ni'ma de la part d'Allah, on est prêt à sacrifier la famille pour gagner un peu plus d'argent à la fin du mois. Pour quelque chose qui est impur pour Allah, pour quelque chose qui n'a aucune valeur pour Allah, Azza wa Jal. Et dans ce monde qui n'a aucune valeur pour Allah, il y a quand même des choses qui comptent pour Allah. C'est pas les sept merveilles du monde, c'est pas les gisements, c'est pas les mines d'or, c'est pas le salat, wallah. Ce qui compte pour Allah dans ce dunya, c'est Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Les mosquées, les masajid, ça c'est les endroits qu'Allah aime le plus dans ce dunya. Dans ce dunya impur, sans valeur, il y a ces choses-là qui se distinguent. Ces endroits-là, ce sont les seuls endroits qu'Allah Ta'ala aime, les endroits où les gens viennent pour penser à Allah, faire le dhikrullah, pour se prosterner, pour que le front touche le sol. C'est-à-dire le but de notre création. Allah ne nous a pas créés pour réunir, pour ramasser l'argent là. Wallah. Allah ne nous a pas créés pour obtenir tel bienfait, tel rang, telle notoriété de la société là. Wallah. Allah a créé cet homme pour que cet homme pose son front sur le sol devant lui. C'est pour ça qu'on a été créé, pour faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc dans ce dunya, les seules choses qui sont aimées par Allah, les seuls endroits, c'est masajiduha. Wa abradul biladi ilallahi aswaquha. Hadith d'Imam Muslim. Et les endroits les plus détestés par Allah, dans ce dunya, c'est quoi? C'est les aswaq, les marchés. Et quand on parle de marché, c'est pas marché forain, quand on parle de marché, c'est tous les endroits où on fait de la vente. Il y a bay' et shira. Ça peut être une grande surface, un magasin, un bazar aussi. Ça. Les endroits où les gens ils vont pour le dunya. Ça, Allah n'aime pas ces endroits-là. Nous, on a inversé les choses. On voit les gens, ils vont se promener, fête commerciale. Ils vont se promener dans les grandes surfaces, ils vont se détendre. Ça, c'est les pires des endroits. C'est également des endroits où les shayatines sont concentrées. C'est pour ça qu'il y a des douas spéciales à lire en entrant dans le souk, en entrant dans le marché. Les endroits où les shayatines circulent le plus, ce sont les aswaq, ce sont les marchés. Et nous, Allah, on inverse les tendances. Nos cœurs sont attachés à ces endroits où on achète, où on contemple, où on voit les biens de ce monde, où on aimerait acheter. Où Allah, et les endroits les plus aimés par Allah, pour nous, c'est devenu un lieu de passage périodique. Yom al-Jum'a et Ramadan. Le reste du temps, si une fois on est invité par Allah, ben on a fait namaz avec tout le monde, c'est tout. Alors que les sahaba, ridwanullahi al-majma'in, eux, ils avaient compris les choses. C'est ça qu'ils ont, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah était satisfait d'eux, pourquoi? Parce qu'ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris de ce dunya. Et, enfin, on parle des sahaba, il y a une citation hein, de Shirazi, rahimallah, des choses ajib. On verra un petit peu la vie des tabi'in, hein, comment ils consacraient, ils donnaient une importance capitale au masajid. Comment pour eux, rater un namaz en jamaat, c'est inconcevable, impensable. Alors que pour certains d'entre nous, qu'Allah nous pardonne, s'il y a Saint-Pauloise contre, je sais pas, le club Dunkerque, je sais pas quoi, je sais pas à quelle heure ça s'est fait, hein, ça s'est joué. Ah ben Saint-Paul, il jouait là. La Réunion, il jouait contre la France, là, quand même. Bon, il dit, imam, bon, on a fait namaz à case après. Là, il a, ça, c'est vraiment khassar. Quelqu'un qui fait passer Denis avant son din, c'est la pire des choses. Ou un match de Coupe du Monde, match éliminatoire, match, même s'il y a un enjeu capital, jamais faire passer le dunya avant le din. Jamais la vie. Ça, c'est montrer à Allah que, oh Allah, ton din, pour moi, c'est secondaire. Na'oud billah. Ça, vraiment, c'est pas quelque chose à faire. Et Shirazi, rahmahullah, on va voir, on a dit tout à l'heure, la vie des tabi'in, kalam ajib, il dit, إذا سمعتم حيان الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. Dit que lorsque vous entendez حيان الصلاة, le adhan, et que vous ne me voyez pas dans la masjid, alors allez me chercher dans le cimetière, c'est que je serai mort. Quand vous entendez حيان الصلاة, vous ne m'avez pas vu dans la masjid, c'est que je suis mort. C'est que si je ne suis pas ici, quand il y a حيان الصلاة, c'est que je suis dans le cimetière, on m'a déjà enterré. Ça c'est Subhanallah des tabi'in. Et là on ne parle pas encore des sahaba. Ça c'est les personnes qui avaient le din de leur vie. Hadith dans lequel le prophète dit khayrul biqa'i al-masajid wa sharrul biqa'i al-aswaq. Hadith qui a à peu près le même sens. Les meilleurs des endroits c'est les mosquées et les pires des endroits ce sont les marchés, ce sont les endroits où il y a le dunya. Hadith le prophète dit al-masjidu baytu kulli mu'min. La masjid c'est la maison de chaque croyant. C'est-à-dire que les muhadithins expliquent que quand un mu'min entre dans la masjid, il doit y trouver une quiétude, une tranquillité. Quand un mu'min rentre dans la masjid, il doit trouver un apaisement, un tama'nina. Pourquoi il trouve une tama'nina, une raha, une tranquillité? Parce que c'est un endroit béni. C'est parce que c'est un endroit où il n'y a que de la pureté. Les malaïka, ils viennent. La rahma d'Allah, elle descend en permanence. C'est pour ça également que c'est un endroit qui doit être respecté. On va voir dans d'autres hadiths. On va voir d'autres choses que le prophète met en garde également contre certaines pratiques, hein, les gens qui parlent du nom de la masjid. Bref, dire que quand un mu'min rentre dans la masjid, il doit trouver une sakina, une tranquillité du cœur. Et ça, c'est un signe de iman, ça. C'est un signe de iman que quand quelqu'un va dans une mosquée, il se sent bien. Et quand il ressort, il retrouve son stress, son angoisse. Tu sais, les problèmes du dunya, c'est énorme. Et il les retrouve en sortant. Mais quand il est dans la masjid, il se sent bien. Alors que le munafiq, c'est le contraire. Dehors, c'est le roi. Dehors, il est à l'aise, c'est lui qui contrôle. Quand il est dans masjid là, c'est comme si que ça va pas, il est pas bien, il a chaud, il est transpire, il fait vite salat. Il y a des gens, quand la masjid finit, salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum wa rahmatullah, c'est comme si qu'il y a le feu. Quoi, il a besoin, si quelqu'un qui fait la salat derrière, il va faire tout ce qu'il peut pour mettre un chaise, dit quelqu'un, mets-toi là pour que je passe. C'est comme si qu'il peut pas tenir, peut pas rester quelques secondes en plus dans la masjid. C'est pas un péché de sortir après la salade. Non, on peut avoir, faut pas avoir de mauvaise pensée. Quelqu'un peut être pressé, mal garé ou autre chose. Bref, ça c'est des exceptions. Mais c'est quelque chose de significatif. Quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise dans la masjid, ça veut dire que l'iman n'est pas réellement entré dans son cœur. C'est qu'il n'a pas les bons capteurs. Les bons capteurs au niveau de son cœur. Parce que si le iman est présent, Le iman capte la rahma d'Allah qui descend. Le iman s'imprègne de cette bénédiction qui descend. Mais si vous n'avez pas les capteurs, il ressent rien. Et au contraire, il a l'impression de, na'oud billah, de perdre un peu son temps, alors que là-bas, il a telle chose à faire, il peut rencontrer telle personne, il peut continuer son travail, il peut faire telle ou telle chose. Ce qui est malheureux, c'est que dans notre communauté, des habitants parfois du centre-ville, ou, c'est-à-dire le quartier où on est, quelles que soient les villes, hein, pas, quels que soient les endroits, très souvent, il y a des gens, on les voit uniquement le Jumu'a. Ça, c'est terrible, ça. Alors que la masjid, elle est accessible. Alors qu'Allah Ta'ala nous a accordé les deux ni'mas. At'amahum min ju' wa min khawf. Allah nous a accordé les bienfaits d'une manière générale. On parle de nourriture, mais tous les bienfaits. C'est pas que quelqu'un il meurt de faim, donc s'il va pas faire tel travail, il n'aura pas possibilité de venir à masjid. Et amanahum min khawf, la sécurité. Ni'ma, la sécurité. C'est-à-dire quand on voit Allah Akbar, qu'on pense à nos frères en Palestine, la ilaha illallah, on pense à ces musulmans dans les pays où il y a des guerres, des génocides, hein, si on veut utiliser le terme, d'accord. Et nous, alhamdoulilah, on a la possibilité de se rendre à la masjid, même des gens qui peuvent venir à Salatul Fajj, vous venez à 4h30 du matin, 5h du matin, en toute sécurité. Ça, ce sont des ni'mas, mais malheureusement, les gens ne viennent pas. Les gens, ils attendent que le Yawm al-Jum'a pour venir. Ça veut dire que dans le cœur, le iman ne s'est pas vraiment installé. Si quelqu'un il vient que Jumu'a, il vient que le mois de Ramadan, c'est que le iman n'est pas réellement entré dans le cœur. C'est que la personne n'a pas compris les vraies valeurs du dîn. Que la personne croit que pratiquer l'islam, c'est quelque chose de périodique. Et ça, c'est une khasara, ça c'est une catastrophe. Mais la personne ne le ressent pas comme une catastrophe. Parce qu'il voit que de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, son compte en banque augmente. Son chiffre d'affaires augmente. Donc pour lui, il gagne. Ah, j'ai l'appelé masjid, mais il est pour être poli. Il n'y a pas rien. Moi, il travaille, il fait rentrer l'argent, bon citoyen, d'accord. Et il ne se rend pas compte. Parce que son fikar, son souci, c'est le dunya. Jam'ul mal, c'est la seule chose. Et quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a perdu notre temps réellement avec le dunya? C'est comme avec Al-Mordi, c'est quand on quitte le dunya, quand on quitte le monde du visible, et qu'on met les premiers pieds dans le monde de l'invisible, là on se rend compte que ben 2 ans j'ai atteint un nous en bas dans la tombe là. Mais ne regarde pas de diplôme, regarde pas combien de magasins, combien d'immeubles, quel loto il roule. Seule chose qui compte, c'est iman de le cœur et amal. Quel amal il vient à côté de vous dans la tombe, de votre qabr? Est-ce que c'est le Coran qui vient dhikr Allah salat, ou alors c'est autre chose? C'est à ce moment là que la personne comprend son vécu. Et il comprend qu'est-ce que j'ai fait réellement dans ma vie, dans les années qu'Allah Ta'ala m'avait accordé. On va s'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah. On va voir la prochaine fois différents points, quelques vertus encore pour celui qui construit une mosquée ou qui aide financièrement à l'entretien d'une mosquée. On va voir également comment le premier signe qui prouve qu'une personne a le cœur attaché à la masjid, c'est l'assiduité. Fréquenter la masjid, les 5 salats de congrégation. Et on va voir comment le prophète alayhi salatu wassalam, même dans sa maladie, avant de mourir, comment il voulait absolument venir à la salat. Hein, il était malade, il s'est mis debout avec le sahaba, il a fait le wuzu, il allait vers la masjid, il s'est évanoui. Première chose qu'il a dit en se réveillant, as-salat nas, est-ce que les gens ont fait leur salat? Il a dit au prophète d'Allah, non, ils t'attendent. Il se réveille, il se met debout, il fait le wuzu, les ablutions, il fait quelques pas, il s'évanouit. Et 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que jusqu'à cette dernière force au prophète alayhi salatu wassalam donner l'importance à la prière en congrégation. Et on va voir les sahaba également comment ils fréquentaient avec assiduité la masjid, et certains tabi'in comme on a vu Shirazi et d'autres encore. Un des plus grands exemples, c'est Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah, qui dit que pendant 50 ans, wa ma nadhartu fi qafa rajulin fi ssalati mundu 50 sana. Il dit ma fatani takbirat al-ula mundu 50. Je n'ai pas raté le takbir oula depuis 50 ans. Wa ma nadhartu fi qafa rajulin fi ssalati mundu 50 sana. Il dit depuis 50 ans non plus, je n'ai jamais vu la nuque d'une personne en faisant la salat. Ça veut dire quoi ça? Dire que depuis 50 ans, il est premier saf. Je n'ai jamais fait la salat derrière quelqu'un, à part derrière l'imam bien sûr. J'ai jamais été dans un rang où je voyais la nuque des gens. J'ai toujours été, il a dit, il était premier saf takbir oula pendant 50 ans. Ça c'est tabi'in, les gens qui ont vu les sahaba. Et donc, pour encore 5 petites minutes qui va rester, on est à 24 minutes, jusqu'à 30 minutes inchallah. Un petit rappel, hein, brièvement, parce que parfois les rappels il faut les faire un peu tôt, parce qu'on a besoin de se programmer. Vous savez que, alhamdoulilah, on a commencé le mois béni de Muharram. Il faut le dire, le mois de Muharram, c'est un mois béni. C'est un des mois les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cette citation magnifique de l'Hassan, il dit que « Inna Allah aftataha sanata bishahrin haram » wa khatamaha bishahrin haram. Il dit qu'Allah ta'ala commence l'année par un mois sacré. Et Allah ta'ala termine l'année par un mois sacré. Par quel mois sacré on a terminé l'année? Par le mois de Dhul-Hijja. C'est un mois sacré. Et quel cadeau Allah ta'ala nous a accordé de Dhul-Hijja? Mis à part les gens qui ont été au Hajj, ça c'est le plus gros cadeau. Mais pour les autres, le jeûne du jour de Arafat, avec les deux années de péché pardonnées, qu'Allah accepte. Et Allah ta'ala commence l'année avec un mois qui est également sacré, qui est appelé le mois d'Allah, Shahrullah, le mois d'Allah. Et quel cadeau Allah nous accorde dans ce mois de Muharram? Le jeûne du dixième Muharram, avec la possibilité d'avoir une année de péché effacée. Donc Allah termine l'année par un cadeau énorme et un mois sacré, et Allah nous permet de démarrer l'année avec un mois sacré et un grand cadeau, une grande faveur qu'Allah nous accorde. Hadith d'Abu Dhar radiallahu anhu, il dit que j'avais demandé au prophète d'Allah quelle est la meilleure des nuits et quel est le meilleur des mois. Le prophète, il explique que le meilleur des nuits, c'est le milieu, c'est-à-dire vers, on va dire, le dernier tiers de la nuit. وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمُ. Il dit que le meilleur des mois, c'est le mois que vous appelez Muharram. Hadith de Imam al-Nasa'i. Donc ça, c'est le mois d'Allah, un des mois les plus appréciés par Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, il y aura des explications bientôt sur l'importance de ce mois et l'importance du jeûne. Mais il faut savoir que c'est un mois synonyme de Nusra. Connaît l'histoire qu'Allah Ta'ala est venu en aide à Moussa alayhi salam contre Pharaon et son armée pendant le mois de Muharram. Il y a d'autres versions encore, certaines sont antiques, d'autres sont hassan, d'autres sont un peu moins authentiques, hein, qui dit que durant ce mois également Allah Ta'ala est venu en aide à Yunus alayhi salam. Allah Ta'ala a aidé également Moussa alayhi salam dans d'autres circonstances en plus de l'armée de Pharaon, et qu'Allah Azza wa Jal a accordé son pardon au peuple de Moussa alayhi salam durant le mois de Muharram. D'autres versions qui disent également que c'est durant le mois de Muharram qu'Allah Ta'ala a accordé son pardon à Hazrat Adam. On a dit qu'il y a pas mal d'histoires, il y en a qui sont 100% avec des chaînes de narration correctes, d'autres qui sont un peu moins correctes, mais ce qu'on retient de manière générale, surtout à travers le hadith le plus authentique concernant l'armée de Pharaon, c'est qu'Allah Ta'ala a envoyé son aide durant ce mois. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait. C'est pour ça que les Yahouds jeûnaient comme par reconnaissance pour l'aide qu'Allah a accordé à Moussa alayhi salam en ce jour. Et c'est pour ça également que notre prophète sallallahu alayhi salam a enseigné aux sahaba qu'il est bon, au départ il était wajib, obligatoire de jeûner, et jusqu'à après la révélation du Ramadan, le jeûne est devenu sunnah. Il faut savoir également que tous les anbiya alayhi salatu wassalam donnaient de l'importance au jeûne de Ashura. Hadith d'Abu Huraira dit que Yom Ashura kanat tasumuhu al-anbiya, tous les anbiya jeûnaient en ce jour, fasumuhu antum, donc vous aussi aux musulmans jeûnez en ce jour. Même les Ahli Kitab, les Yahoud et les Nasara, hein, ils donnaient de l'importance au Ashura à l'origine dans la religion qu'Allah Ta'ala leur avait révélée. Il est même dit dans certaines sources que dans le Jahiliya, à l'époque pré-islamique, chez les polythéistes, chez les Arabes adorateurs d'idoles également, il dit qu'une fois les Quraysh dans le Jahiliya, ils avaient fait un péché grave. Et ils s'étaient renseignés comment faire pour qu'Allah leur accorde le pardon. Parce qu'ils croyaient en Allah, les polythéistes. Ils croyaient en Allah, mais avec ça, malheureusement, ils adoraient des idoles, en pensant que ces idoles, hein, allaient les rapprocher d'Allah. Bref. Et le pardon qui leur a été proposé, c'était de jeûner le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10 du mois de Muharram. C'est-à-dire que dans toutes les communautés, que ce soit chez les mushrikines de Quraysh, les polythéistes de Quraysh, ou les Ahl Kitab, ou alors chez les Anbiya, alayhi salat wa salam, tous les Anbiya, il y avait une importance accordée au jeûne du 10 du mois de Muharram. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit que je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorder autant d'importance à un jeûne, c'est-à-dire un jeûne nafil, un jeûne qui n'est pas faraz, mis à part le jeûne du jour de Ashura. Le prophète alayhi salatu wassalam ne ratait pour rien au monde le jour de Ashura. Et la récompense qu'il y a, là on fait un petit adribe, hein, un petit rappel bien en avance. Au moins si quelqu'un a déjà programmé un pique-nique dimanche ou telle chose, on se dit que non, dimanche c'est Muharram. Dis Muharram, on va jeûner inshallah. Coûte que coûte, il faut absolument jeûner. Subhanallah, il y a une année de péché effacée. Qui sait qui braderait ça pour autre chose? hadith d'Abu Qatada dit que anna rajulan, la récompense, sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam 'ashura, du prophète d'Allah, qu'est-ce qu'Allah nous accorde en ce jour quand on jeûne. Il dit qu'ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana, an yukaffira as-sanata allati qabla. J'ai espoir qu'en jeûnant ce jour, Allah Ta'ala nous pardonne les péchés de l'année qui s'est écoulée. Les péchés de l'année qui s'est écoulée, c'est-à-dire l'année qui vient de terminer, bi'iznillah, par le biais du jeûne de Ashura, Allah Azza wa Jal va pardonner ses péchés. Donc c'est extrêmement important. On fait le niyyah dès maintenant, incha'Allah, de jeûner. Et alhamdulillah, la facilité, c'est que chez nous à La Réunion, comme on n'avait pas vu la lune, hein, le 10 Muharram, c'est dimanche. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Jeûner un dimanche, juste le dimanche, hein, il ne mangera pas gâteau à Youb. C'est pas grave, ça. Et donc, il y a maintenant la manière de jeûner et le 10 Muharram, hein, ça c'est un classique, on a l'habitude de le rappeler, hein, il faut toujours jeûner deux jours. Dans la mesure du possible, on jeûne 9 et 10 ou alors 10 et 11. Et le prophète avait souhaité une année d'ensuite de jeûner le 9 et le 10. Vous savez, tellement nos pieux prédécesseurs donnaient de l'importance à ce jeûne. Il dit qu'il y avait des gens comme Ibn Abbas, également Abu Ishaq ou Ibn Sirin, ils jeûnaient les 3 jours. Vous savez pourquoi ils jeûnaient les 3 jours? 9 plus 10 plus 11. Parce qu'ils avaient cette crainte que, imaginez que, ben, on n'avait pas bien vu la lune, que la lune était visible, qu'on n'avait pas vu, et qu'on rate le 10. Donc par précaution, il dit qu'on met le 9, le 10 et le 11. Ça montre vraiment comment ils avaient compris que jeûner Ashura, ça c'est extrêmement important. Et rater Ashura, ce serait une catastrophe. Donc, il jeûnait les 3 jours. Donc, Inch'Allah, on fait le niya de pouvoir jeûner cette année et qu'Allah, par le biais de ce jeûne, nous pardonne une année de péché. Et vous savez, un péché qu'on ramène avec nous dans la tombe, c'est une catastrophe. Un péché qu'on ramène avec nous le jour de Qiyamah devant le tribunal d'Allah, c'est une catastrophe. Un péché peut faire pencher la balance du mauvais côté. Un péché peut causer notre destruction. Maintenant qu'on voit que Allah nous pardonne une année de péché. Et si quelqu'un toute sa vie jeûne Ashura jusqu'à sa mort, ben subhanallah, c'est comme si qu'il y a une grande purification annuelle. Une grande purification annuelle. Donc ça c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un cadeau, une faveur de la part d'Allah. Ça fait partie des grands cadeaux, ça. C'est quoi les grands cadeaux qu'Allah a accordé à cette Ummah? Il y a bien sûr le mois de Ramadan, il y a bien sûr la nuit du destin, Laylatul Qadr, et il y a les 6 Shawwal. Grand cadeau, ça, de la part d'Allah. Il y a le jeûne de Arafat, grand cadeau de la part d'Allah. Et enfin, l'autre grand cadeau, c'est le jeûne de Ashura, qu'Allah nous accepte, nous permette de jeûner, permette à les gens de la famille aussi, madame, les enfants de jeûner. Vous savez que même les sahaba, au début, même leurs enfants jeûnaient. Ils amenaient les enfants à la masjid et ils leur donnaient des jouets. Avec les hadiths décrits, hein, avec de la laine, ils faisaient des jeux, peut-être des petits ballons, je ne sais pas quoi. Bref, pour détourner un peu, pour les occuper un peu, pour qu'ils ne pensent pas à la femme et faisant en sorte que leurs enfants également jeûnaient le jour de Ashura. Donc si aussi nous on a des enfants, 5 ans, 6 ans, bon 5 ans peut-être c'est un petit peu petit, mais 6 ans, 7 ans, 8 ans, on fait en sorte que eux aussi, hein, ils jeûnent pour que l'important de ce jour entre dans leur cœur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.